Chapitre 8. L'envie triomphe de Languedoc. La jeune modiste que Saladin avait montrée à son père Similor au travers des carreaux du magasin de mode de la rue de Richelieu s'appelait simplement Marguerite Baumspiegel-Nergarten, prononcée Bospigard, et avait reçu le jour quelque part en Germanie, d'où elles viennent par centaines, comme les clarinettes. Nous savons que Similor lui avait trouvé un grand air de ressemblance avec Mademoiselle Saphir. Il en était ainsi, sauf la grâce et l'expression, et Mademoiselle Baumspiegel-Nergarten, plus connue sous le nom de Guide à tout faire, était une fort jolie personne de 17 à 18 ans, qui en paraissait 15. Son nom de Guide à tout faire n'avait pas absolument trait à ses mœurs, qui étaient celles d'une modiste. Il se rapportait surtout au grand nombre de métiers qu'elle avait essayés malgré son jeune âge. Elle était adroite comme une fée et réussissait à tout, mais en même temps elle était atteinte du péché de paresse à un tel degré qu'il lui était arrivé de se laisser souffrir de la faim pour ne point travailler. Elle avait vendu des ballets dans les rues, chanté au carrefour, figuré dans les petits théâtres, cousu des chemises, piqué des bretelles et des bottines. Elle avait en outre trouvé moyen, au dire de ses ennemis, de passer quelques mois à Saint-Lazare. Néanmoins, elle trouvait toujours à se placer, même dans les maisons honorables, parce que personne à Paris ne savait chiffonner comme elle, en deux tours de pouce, un chapeau à la chien. Depuis quelque temps, monsieur le marquis de Rosenthal passait à l'atelier pour être l'amant de Guide à tout faire. Cette demoiselle ne trouvait pas qu'il eût la touche exacte des jeunes héritiers du faubourg Saint-Germain, mais elle lui accordait de beaux cheveux bien peignés, et quand son état de coulissier amateur fut connu, Guide reçut les félicitations de ses compagnes. La coulisse a des charmes étranges pour cette demoiselle. Quand on félicitait Guide, elle souriait ou elle rougissait, suivant son humeur du moment, mais il semblait toujours qu'elle eût un secret suspendu à ses lèvres. Et ce secret, eu égard à l'expression du sourire, ne devait pas être à l'avantage de monsieur le marquis de Rosenthal. Ces demoiselles en étaient venues à traduire ce sourire vaguement, mais tristement. Et quand monsieur le marquis de Rosenthal passait, elle disait « C'est ce pauvre jeune homme !» un peu comme s'il lui manquait un bras ou un œil. Le lendemain de cette soirée que nous avons passée en compagnie des membres du club des bonnets de soie noire, entre 5 et 6 heures du matin, Saladin frappa à la porte d'une petite chambrette située au plus haut étage de la plus haute maison de la rue Vivienne, et qui était la retraite de mademoiselle Marguerite Baumspiegel-Nergarten. On demanda qui est là, et monsieur le marquis de Rosenthal se nomma. Aussitôt il se fit un bruit dans la chambre, où mademoiselle Guide n'était évidemment pas seule. Il y eut des allées, des venues, un son flasque de pantoufles, un retentissement sec de talons de bottes, et en même temps on causait et on ne se gênait vraiment pas pour rire. Monsieur le marquis de Rosenthal n'avait pas l'air formalisé le moins du monde, seulement comme il était pressé, il laissait de temps en temps échapper un geste d'impatience en se promenant sur le carré. Au bout d'un quart d'heure, la porte de mademoiselle Guide s'ouvrit. Un jeune homme sortit, qui ressemblait assez à un commis de nouveauté. Il salua monsieur le marquis de Rosenthal avec un sourire moqueur qui ne manquait pas d'une certaine impertinence. Monsieur le marquis lui rendit son salut gravement et entra. La chambrette était fort en désordre. Guide, vêtu d'un peignoir de mousseline, avait commencé à se coiffer devant sa petite toilette. Ses cheveux magnifiques étaient épars. Elle avait les épaules demi-nues, et ses épaules, en vérité, étaient remarquablement belles. Saladin ne le regarda pas. Il s'assit sur une chaise et dit « Allons, allons, mignonne, nous sommes en retard !» Guide rejeta ses cheveux prodigues en arrière et lui envoya le plus coquet de ses sourires. « Vous êtes donc bien avare de votre temps, » dit-elle. « Je n'en ai pas à perdre, » répliqua Saladin. « Ah, ça !» s'écria Guide en frappant du pied, et avec un dépit qui devait avoir sa source dans le lointain d'autres entrevues. « Est-ce que vous ne me trouvez pas jolie, dites donc, à la fin ?»« Suffit, répondit Saladin, je vous ai choisi parce que vous êtes jolie. Et vous n'êtes pas jaloux? Demanda encore la fillette effrontée d'un accent où débordait le dédain. Ma foi non, reprit Saladin. Dépêchons-nous, s'il vous plaît. Mademoiselle Guit rougit de colère. Vous êtes, commença-t-elle, mais elle s'arrêta et reprit en riant. Après tout, qu'est-ce que cela me fait? Saladin s'approcha d'elle et lui toucha la joue d'une main que Guit trouva froide comme la peau d'un reptile. Elle se détourna à demi, curieuse de ce qu'il allait dire. Saladin répéta seulement « Voyons, Minette, dépêchons !» Guit acheva de se coiffer, et en un tour de main, elle eut lassé ses bottines. « Voulez-vous être ma femme de chambre, monsieur le marquis ? » demanda-t-elle, essayant encore une fois l'artillerie charmante de son regard. Saladin s'y prêta de bonne grâce. Il prit la robe, il la passa, il l'agrafa, et puis alla se rasseoir. « ma parole !» fit mademoiselle Guit émerveillée, « il n'y a pas beaucoup de marquis comme vous, monsieur de Rosenthal. »« Dépêchons, trésor !» répondit Saladin, « la voiture attend en bas. » Mademoiselle Guit jeta son petit chapeau en équilibre sur ses cheveux crêpés à la diable, et tous deux descendirent. En bas, il y avait en effet une voiture, et dans la voiture un homme, portant un costume râpé dont la coupe était puissamment hétéroclite, attendait, assis sur la banquette de devant. Et près de lui était une grande boîte plate, ressemblant assez à la boutique d'un peintre en bâtiment. Il ôta sa casquette d'un air gauche quand Saladin et Guit prirent place sur la banquette de derrière. Le fiacre s'ébranla aussitôt, descendit à la Seine, traversa le Pont-Neuf et s'arrêta devant une maison de bonne apparence dans la rue Guénégaud, non loin des bâtiments de la Monnaie. Il y avait eu peu de paroles échangées pendant le trajet. Mademoiselle Guit avait demandé « Enfin, qu'est-ce que nous allons faire ?» Monsieur le marquis avait répondu simplement « On va bien voir ». Nos trois personnages montèrent deux étages d'un beau vieux escalier, et Saladin sonna à la porte sur laquelle un écusson de cuivre disait « Docteur médecin ». Une servante vint ouvrir et introduit les nouveaux arrivants, sans leur demander ni leur nom, ni ce qu'ils voulaient, dans un salon d'aspect sévère et sentant le renfermé, qui était encombré d'objets disparates. Cela ressemblait un peu à la boutique d'un brocanteur. Le docteur Samuel avait la réputation méritée de se payer volontiers en nature. Quand il visitait une famille trop pauvre pour solder sa note, il ne se fâchait point et emportait tout uniment une bagatelle dans ses poches. Et lorsqu'il revenait ainsi avec une paire de flambeaux sous sa redingote ou un coussin ou une statuette ou même un petit balai de cheminée, il disait à l'exemple de l'empereur Titus, surnommé les délices du genre humain, « Je n'ai pas perdu ma journée. »« Vous allez nous annoncer à votre maître, » dit Saladin à la servante. « Il nous attend et sait que nous sommes pressés. » L'homme à la boîte plate et au costume hétéroclite alla prendre place d'un air modeste dans le coin le plus obscur du salon, et Saladin et sa compagne s'assirent sur le canapé. Au bout de 3 minutes, le docteur Samuel parut, précédé par sa servante, portant sur un vaste plateau une assez grande quantité de fioles et de verres. Il y aurait eu de quoi servir des rafraîchissements à une douzaine d'invités, seulement les rafraîchissements n'avaient pas bonne mine. La servante déposa son fardeau sur une table et un geste de son maître la congédia. « Voilà le sujet, » dit le docteur Samuel en examinant Guit, qui changea de couleur. « Avant de commencer l'opération, je vous prie, mon cher monsieur, de me donner exactement la forme et la dimension de l'objet demandé. » Et puis, se penchant à l'oreille de Saladin, il ajouta « Est-ce mademoiselle de Chavès, monsieur le marquis ?»« En propre original, » répondit Saladin. À ces mots d'opération, Guit s'était prise à trembler de tous ses membres. La laideur de Samuel augmentait son épouvante. « Ah, pour tout l'or de la terre, » déclara-t-elle franchement, « je ne consentirai pas à me laisser faire du mal par ce docteur-là. » Saladin attira vers lui sa blonde tête et la baisa fort affectueusement, ce qu'il n'avait point fait quand ils étaient seuls. « pauvre chère folle, murmura-t-il avec tendresse, est-ce moi qui voudrais te faire du mal? Ne crains jamais rien de l'homme à qui tu as confié ta destinée. » Puis, se tournant vers le docteur, il dit, « J'ai grande confiance en votre habileté, mon savant ami, mais j'aime trop cette charmante enfant pour risquer la moindre des choses. Si vous le permettez, nous allons d'abord essayer l'expérience inanimavili. » « Sur vous ?» demanda Samuel. « Non pas, je suis presque aussi douillé que ma ravissante compagne. » Il ajouta, avec un sourire, « J'ai apporté ce qu'il faut. » Le docteur chercha sous les meubles, croyant y trouver quelque croix de pède, mais en ce moment l'homme à la boîte plate se leva, sortit de son coin et dit « Sans vous commander, voilà l'affaire, monsieur le médecin, c'est moi qui suis l'animavili, Languedoc, artiste de foire, peintureur et faiseur de tête à la maquis, pour vous être agréable si l'occasion s'en présentait dans n'importe quelle circonstance. » Pendant que le docteur Samuel le regardait, étonné, Languedoc déboutonna sa vieille redingote, son gilet déjeté et sa chemise, qui n'était pas d'une blancheur exemplaire. Mademoiselle Guite, rassurée, pour le moment du moins, le regardait faire en riant de tout son cœur. Languedoc, ayant enlevé sa chemise d'un tour de main, resta vêtu de son seul pantalon. Il montra ainsi son torse noueux au regard des assistants, non point tel que Dieu l'avait fait, mais couvert de tatouages et d'illustrations multipliées à l'infini. Il marcha vers le docteur d'un pas grave, en faisant saillir ses pectoraux, et désigna au-dessous de son sein une place velue mais intacte qui était bien large comme un écu de 100 sous. « Sans vous commander, dit-il, monsieur le médecin, voilà un endroit où il n'y a encore rien eu. Nous allons voir comment vous entendez la besogne. » « Oh, voilà un homme barbu !» dit mademoiselle Guite en jetant un singulier regard sur la joue glabre de Saladin. « Mazette !»« Oh, c'est la toison d'une bête fauve !» murmura le docteur. « On ne dessine pas sur une fourrure !» « Sans vous commander, répliqua Languedoc, les diverses estampes dont se trouve jonché mon personnage ont été exécutées nonobstant le poil. Le poil n'y fait rien du tout, parce qu'il est dans la nature de l'individu. » « Il pourrait en revendre, murmura Guite avec admiration. » Languedoc se redressa fièrement. « On le doit tout entier à la Providence, répondit-il. Les mains des hommes n'y ont rien ajouté. » Saladin, qui venait de se lever, traça sur une page de son carnet l'esquisse d'une cerise de grandeur ordinaire qu'il remit entre les mains du docteur en disant « Rouge ici, rose là, une nuance jaune dans cette partie, apparence veloutée sur le tout. » Le docteur avait l'air assez embarrassé. « L'ami, dit-il à Languedoc, prenez 4 chaises, couchez-vous sur le dos et restez immobile, nous allons essayer l'opération. » « C'est bien des façons, monsieur le médecin, répondit Languedoc, mais du moment que votre idée est comme ça, allons-y, je suis ici pour obtempérer. » Il se coucha sur les 4 chaises, tout de son long, et demeura sans mouvement. Guise commençait à s'amuser beaucoup. Oh, « Ce garçon-là est superbe, dit-elle à Saladin. Ah, quand je serai princesse, je le prendrai chez moi. Pensez-vous qu'il se laisserait peindre aussi le dos ?» Le docteur avança une 5e chaise, puis une 6e pour y mettre le plateau. Il déboucha successivement plusieurs fioles, et après les avoir flairées, il opéra divers mélanges dans les verres. Les liquides qu'il mêlait ainsi répandaient dans l'air de ces bonnes odeurs pharmaceutiques qui font craindre le voisinage des apothicaires. Il avait de belles couleurs bleues, rouges, oranges, et produisait quelquefois au fond du vase, au moment du contact, de soudaines effervescences. Languedoc était immobile sur son lit improvisé. Samuel, après avoir broyé ses couleurs, choisit 2 ou 3 pinceaux et quelques petits instruments de chirurgie, puis, à la place indiquée, la seule libre, entre un coq gaulois qui était bon teint, puisqu'il datait du temps de Louis-Philippe, et un aigle impérial, déployant ses ailes au milieu des drapeaux, au-dessus d'un groupe de canons, au-dessous de 2 colombes qui se becquetaient avec sensualité, il commença à pointiller, à racler, à peindre. Langlois ne bougeait pas. Il disait seulement de temps à autre « Chacun a sa méthode différente. C'est une branche des beaux-arts qui a bien gagné depuis le commencement du siècle. » Guite, puis Saladin lui-même, quittèrent le canapé pour venir regarder par-dessus le dossier des chaises. Ce fut long. Le docteur travailla une bonne heure et mouilla sa chemise, comme le fit observer Languedoc. Au bout de l'heure révolue, le docteur dit « Voici à peu près la chose. Au premier aspect, cela semble imparfait, mais avant demain matin, la plaie aura pris l'aspect convenable. » Sur la poitrine du brave Languedoc, il y avait une tache noirâtre qui représentait assez bien une de ces merises que les gamins appellent des négresses, ou mieux un petit abcès menacé par la gangrène. « Si on veut m'en faire autant, dit Guite avec résolution, je mordrai tout le monde et j'appellerai la garde. »« Le fait est, ajouta Saladin, que nous n'y sommes pas du tout. »« Attendez quelques heures, voulut dire Monsieur Samuel. » Mais Languedoc, qui s'était levé pour aller se regarder dans un miroir, l'interrompit sans amertume ni rancune, et dit « Quant à ça, monsieur le médecin, vous m'avez gâté la seule place que j'avais de libre. Il n'y a qu'un moyen, c'est d'y mettre un emplâtre. Voyez-vous, chacun a son talent, et vous ne seriez pas reçu à l'examen de peintureur. Sans vous commander, c'est à votre tour de me prêter un bout de cuir pour que j'établisse un spécimen du signe de beauté qui doit orner l'estomac de la jeune personne. Si on lui flanquait un objet pareil sur la peau, le père et la mère diraient, malgré leur attendrissement, ce n'est pas une cerise, c'est un vésicatoire. « Je vous avais prévenu, murmura le docteur Samuel, un peu confus, c'est le poil qui s'oppose. On ferait une pelisse avec la peau de ce garçon-là. »« Montrez voir la vôtre !» s'écria Languedoc, qui avait remis sa chemise et qui releva gaillardement ses manches pour ouvrir sa boîte de peintre en bâtiment. Mais le docteur se refusa avec énergie à prêter sa personne pour de semblables expériences. « Alors, dit Languedoc, allez au marché m'acheter un autre anima vili, quand ce ne serait qu'une poule, la volaille étant la seule bête qui ait la peau analogue à l'humanité. » Mademoiselle Guite à tout faire examinait déjà le contenu de la boîte plate. « Je connais ça, dit-elle, complètement rassurée, il n'y a point de morora là-dedans. Les comtesses ont toutes des choses semblables, seulement elles sont en acajou. » Languedoc se mit au port d'armes pour répondre « La différence des fortunes, mais n'empêche que ces dames n'ont pas, si bien que moi, la manière de s'en servir. » Guite lui donna une petite tape sur la joue. « Eh bien, papa, dit-elle, j'ai confiance en toi, moi, tu me chausses. Si tu veux me promettre, mais là, parole sacrée, par exemple, de ne pas me faire de bobo, je vais me mettre entre tes mains et je ne crierai pas si tu m'écorches. » Un attendrissement orgueilleux épanouit la face tannée de Languedoc. « L'enfant a de l'instinct, murmura-t-il. » Puis, étendant la main, « Je prononce le serment, ma cocotte, dit-il, que ça ne vous cuira pas plus qu'un petit verre de sec après le noir. » Mademoiselle Guite n'en demanda pas davantage, elle dégrafa sa robe lentement, et comme Saladin ainsi que le docteur Samuel faisaient mine de s'écarter par décence, elle leur dit bonnement « Ne vous dérangez pas, c'est des objets d'art !» Languedoc, qui fouillait déjà les recoins de sa boîte, murmura d'un ton pénétré « Quel séraphin du ciel, et comme ça va faire naître le bonheur au sein du noble château de ses ancêtres !» « Faut-il me coucher ?» demanda Guite. « Allons donc, repartit Languedoc, c'est bon pour les docteurs et officiers de santé, moi je ne fais pas tant d'embarras. Asseyez-vous là, bijou, sur le coin de la table, une chaise sous vos petits pieds, et pensez à vos amours. Il est seulement interdit de bouger, pour que la guigne ait la rondeur désirable. Y sommes-nous ?»« Nous y sommes, répondit la fillette assise commodément, et montrant au grand jour le satin de sa poitrine, où il n'y avait ni coq gaulois, ni drapeau balancé au-dessus de l'aigle impérial. « Ma parole, fit Languedoc en prenant position, si on n'était pas de l'année 1807, comme la bataille des Lots, la main tremblerait, mais quand la maturité de l'âge s'ajoute à la pudeur de notre sexe, la distraction n'a plus de prise sur l'artiste. » il se mit à travailler, demandant de temps à autre « L'enfant, vous fait-on mal ?» La troisième fois, au lieu de répondre, Guy entonna à pleine voix une chanson de canotière. « Nenni ni fini !» prononça gravement Languedoc au bout d'un quart d'heure. Guy bondit sur ses pieds et s'élança vers un miroir. « Ah, un amour de Montmorency ! » s'écria-t-elle. « On a envie de la manger à l'eau-de-vie !» Elle se retourna vers le docteur et Saladin, leur montrant, entre son sein droit et son épaule, une cerise si brillante qu'elle avait l'air humide de rosée. Ah, « Ce n'est pas un signe, cela, dit le docteur, c'est une lithographie coloriée. »« Jaloux, fit mademoiselle Guy avec une moue. « La marque de l'autre, dit tout bas Saladin, ressemble beaucoup à celle-ci, seulement elle était moins nette. » « Quel âge avait-elle quand vous avez vu le signe pour la dernière fois ?» demanda Languedoc. « 6 ou 7 ans, répondit Saladin. « Eh bien, Blanc-Bec, ma chatte, pardon, excuse, je voulais dire, monsieur le marquis, les signes sont comme tout le reste dans la nature humaine. Ils s'usent. Voici une minette qui a l'âge de l'aurore, et quand les fruits de son espèce commencent à tourner pour mûrir, j'ai vu ça en foire, moi, plutôt 10 fois qu'une, les signes s'effacent au moment où la mioche devient demoiselle, ou bien à tout le moins ils déteignent. J'ai prévu la chose dans mon ouvrage. « Comment ? » s'écria le docteur, « c'est rouge comme du piment !»« Une carafe d'eau, sans vous commander, monsieur le médecin, mais de l'eau pure, où vous n'aurez mis aucune drogue. » Pour être plus sûr, je vais aller l'accueillir moi-même à la fontaine. » Il sortit. C'est son état, dit Saladin au docteur, en manière de consolation. Moi, répondit Samuel, je vous offrais une chose indélébile. Elle était propre, votre chose, ricana mademoiselle Guite. Languedoc rentrait avec une carafe pleine. Saladin n'eut que le temps de glisser à l'oreille de Samuel. « Changez de ton avec lui, il faut que vous soyez une paire d'amis, vous savez qu'il fait jour. »« Oh, rien dans les mains, rien dans les poches, » dit Languedoc en s'approchant de la jeune fille. « Un coin de votre joli mouchoir, ma bébelle, et c'est l'effet de votre complaisance ?» Guite lui tendit son mouchoir parfumé que Languedoc approcha de ses narines avec gourmandise. Il le trempa dans l'eau et commença incontinent à laver, sans précaution aucune, l'espèce de pastel qu'il avait appliqué sur la poitrine de Guite. « Vous allez tout enlever, » dit-elle. « Pas peur, » répliqua Languedoc, « ça me connaît. Encore un petit bain, là. Regardez voir, s'il vous plaît, messieurs et dames. »« Parfait !» s'écria Saladin. « Ma foi, » dit le docteur, qui avait sa leçon faite, toute jalousie à part, « c'est vraiment un chef-d'œuvre. » Languedoc le regarda, étonné. « Vous êtes donc tout de même un brave homme, » murmura-t-il, « c'est drôle. »« Mais oui, » fit Samuel en riant, « je suis un assez brave homme. »« Seulement, » ajouta-t-il, « vous comprenez, j'ai été un peu humilié quand vous avez parlé de vésicatoire. »« Ah, monsieur le docteur, » dit Languedoc avec effusion, « les ignorants comme moi, ça ne ménage pas ces expressions, mais puisque vous trouvez ma guigne bien faite, j'ai idée que vous devez faire un fameux médecin. » Pendant cela, Guy à tout faire se regardait dans la joie et poussait de véritables cris de joie. « Ah, mais c'est mignon comme tout, cette petite machine-là, » disait-elle. « On n'a qu'à glisser un secret pareil à 2 ou 3 chroniqueurs, et il faudra faire venir des pompiers chaque fois qu'on ira à Mabille. Dites donc, monsieur Languedoc, c'est Languedoc votre nom, il est aussi drôle que vous. Est-ce que c'est bon teint, ce bijou-là ? Ce n'est pas éternel comme les gravures en taille douce ou la poudre à canon à passer sur le cuir, » répondit le peintureur, « mais c'est plus solide que la plupart des indiennes et jaconas. Ça peut aller à la lessive un nombre de fois indéterminé. Quand il n'y en a plus, » ajouta-t-il en frappant sur sa boîte, « il y en a encore. » « Ah, c'est juste, » dit Guite, « vous êtes un vieil amour, papa Languedoc, embrassez-moi. » Et puis, se tournant vers Saladin, elle ajouta, « Monsieur le marquis, déliez les cordons de votre bourse. »« Un instant, » répondit Saladin, « Languedoc et moi, nous n'en avons pas fini aujourd'hui. Il y a 14 ans que je lui dois un petit déjeuner fin. »« C'est pourtant vrai, » fit le peintureur en riant, « 14 années sonnées depuis la dernière foire au pain d'épices. Cette fois-là, monsieur le marquis, on t'avait dressé une assez jolie tête de portière, pas vrai ?» « Ah ça, » fit mademoiselle Guite étonnée, « vous avez donc gardé quelque chose ensemble, vous deux ?»« Ne faites pas attention, s'empressa de répondre Languedoc. En foire, nous tutoyons tout le monde, à tort et à travers, mais monsieur le marquis, c'est bien le respect que je lui porte. Saladin avait entraîné le docteur Samuel dans l'embrasure d'une fenêtre. Il faut que je voie vous et ces messieurs dans la journée, dit-il tout bas. Les choses désormais vont marcher très vite. Je suppose que vous avez deviné la mécanique. Il s'agit maintenant de pousser la chère enfant dans les bras de sa tendre mère, de l'installer à l'hôtel, etc. C'est la moindre des bagatelles. Dans quelques heures, je fixerai l'ordre de marche de notre travail. Prévenez donc nos amis et soyez ici en permanence à dater de 2 heures. Très bien, répondit le docteur, qui ne demanda pas d'autre explication. Ce n'est pas tout, reprit Saladin, en baissant la voix davantage. Ce brave homme a notre secret. Le docteur le regarda avec inquiétude. Jamais je ne me charge de rien de semblable, murmura-t-il. Vous ne m'avez pas compris, poursuivit Saladin. Il s'agit tout simplement de le faire déjeuner. J'ai bien déjeuné. Déjeuner si bien qu'il s'endorme à la fin du repas. Cela se peut, mais rien que cela. Attendez, comme il nous a rendu service, il ne serait pas généreux de le jeter ivre ou endormi sur le trottoir. Vous avez bien un trou, une décharge, vous le mettrez à cuver son vin dans un coin, et demain... C'est que nous serons terriblement occupés demain, dit le docteur. Certes, certes, aussi comme il aura la tête lourde, on lui donnera quelques potions qui le tiendra en repos. Après-demain, ou tout au plus tard le jour qui suivra, ne vous inquiétez pas, je me charge de lui. Eh bien, voilà qui est entendu, reprit-il tout haut en quittant l'embrasure. Ce bon docteur se charge d'acquitter ma dette. Ah, maître Languedoc, il n'est pas peintureur comme toi, c'est du moins un fier gastronome. La petite et moi, nous allons faire une course et nous revenons nous mettre à table. Vous pourrez grignoter les hors-d'œuvre en nous attendant. À bientôt, vieux, je suis content de toi et tu auras fait une bonne journée. Sur ce, monsieur le marquis de Rosenthal offrit son bras à mademoiselle Guitte et tous deux sortirent. Languedoc resta un peu déconcerté, mais le docteur Samuel, entrant franchement dans son rôle, lui offrit un cigare et lui demanda des explications sur son travail de tout à l'heure, avec un empressement si bien joué que Languedoc, heureux de montrer sa science, perdit toute inquiétude. Une demi-heure après, ils s'asseyaient à table en face l'un de l'autre pour grignoter les hors-d'œuvre. La glace était rompue et vous les eussiez pris pour les meilleurs amis du monde. Pendant cela, mademoiselle Guitte et son compagnon roulaient au grand trot vers le faubourg Saint-Honoré et l'hôtel de Chavès. Mademoiselle Guitte ne savait absolument rien de ce dont il s'agissait, sinon des choses très vagues et qui ressemblaient à des lambeaux de contes de fées. Les petites ouvrières de Paris, surtout quand elles ressemblent à mademoiselle Guitte, la charmante fille, croient aux fées bien plus qu'en Dieu. Saladin, au début de leur relation, s'était approché d'elle sous prétexte de lui faire la cour, mais cela n'avait pas duré, et il lui avait laissé entendre presque tout de suite qu'elle était destinée à jouer un rôle dans une féerie à grand spectacle qui ferait son bonheur et sa fortune. Saladin n'étant pas mal de sa personne, mademoiselle Guitte, qui ne demandait pas mieux que de jouer la pièce, n'importe quelle pièce, aurait consenti volontiers à avoir un amant par-dessus le marché. Mais telle n'était pas la vocation de Saladin. Il avait entretenu de son mieux l'imagination de la fillette, donnant à entendre que les circonstances étaient trop graves pour s'attarder à des frivolités. Mademoiselle Guitte n'y comprenait rien. Elle avait assez d'éducation pour savoir que tous les intrigants d'opéra comique mènent de front l'amour et les affaires, mais comme, en somme, Paris n'est pas une île déserte et qu'on y trouve d'autres galants que Saladin, mademoiselle Guitte laissait aller et prenait patience. Seulement, monsieur le marquis de Rosenthal, ce beau garçon blanc et imberbe, était pour elle un problème vivant qui excitait sans cesse sa curiosité et un peu son dédain. Au moment même où ils montaient tous deux en voiture en quittant la maison du docteur, Saladin lui dit en souriant « Ma chère enfant, nous approchons de la crise. Vous vous rendrez de ce pas chez votre maman. » Guitte devint aussitôt sérieuse. « Déjà, murmura-t-elle, Et puis, après un silence, comme ça, sans préparation, sans rien savoir, « Il faut se mettre dans le vrai des choses, » répondit froidement Saladin. « Plus vous serez déconcerté, troublé, ahuri, mieux cela vaudra, ma fille. C'est le vrai. »« Mais enfin, » voulut objecter la fillette. « C'est le vrai. Réfléchissez. Vous avez bien deviné un peu ce qu'est notre drame, quoique je vous ai tenu dans une ignorance nécessaire et qui fera votre succès à la première représentation. » Vous avez été enlevé à votre noble famille, voici 14 ans, et vous en avez 16, un peu plus, un peu moins. Hier, vous ne saviez même pas cela, hier, vous saviez seulement, écoutez-moi bien, car c'est votre rôle, qu'un homme généreux, moi, le marquis de Rosenthal, dont vous avez payé la générosité par l'amour le plus tendre, vous recueillit sur une grande route où des saltimbanques, vos maîtres, vous avez perdu. Vous pouviez alors avoir de 6 à 7 ans. L'homme généreux vous éleva très bien. Il n'était pas riche, mais vous n'êtes pas sans savoir confusément qu'il remua ciel et terre pour retrouver vos parents. Et puis, dit Guite, voyant que son compagnon s'arrêtait, « C'est tout, » répondit Saladin. « Il ne retrouva pas vos parents et vous épousa pour vous donner une situation dans le monde. » Ah, « Alors je suis marié !» s'écria la modiste, qui retrouva un instant sa gaieté. « Marié avec vous ?» Saladin fit un signe de tête affirmatif. « C'est drôle !» dit Guite. Puis, revenant à l'embarras de la situation, elle s'écria. « Mais nous voici déjà aux Tuileries. Dans 10 minutes, je serai auprès de cette dame qui se croira ma mère. Que lui dire ?»« Exactement ce que vous voudrez, » répondit Saladin. « Mais encore !» « Mais racontez-lui votre propre histoire, si votre histoire peut être racontée, ou l'histoire d'une autre, c'est bien égal. Dites que je vous ai mis en pension, puis en apprentissage, faites comme vous l'entendrez, le roman de notre mutuel amour, ou bien encore taisez-vous, soyez timide jusqu'au mutisme. Enfin, comprenez bien que tout cela sera bon. Le mauvais, ce serait un rôle appris à l'avance et récité avec trop d'aplomb. » Il traversait la rue Royale et Guite frémit en voyant la façade de la Madeleine. « Je n'ai plus que 3 minutes, » murmura-t-elle. « Votre effroi m'enchante, » répondit Saladin. « Vous êtes juste comme il faut que vous soyez. À propos, trouvez moyen de glisser que nous avons fait ensemble le voyage d'Amérique. C'est nécessaire. » Mais, dit Guite, qui en vérité rougit pour tout de bon, ce qui ne lui était plus arrivé depuis bien des années, « La cerise, c'est une bague que vous avez au doigt, » répliqua Saladin, « et qui vaut tous les parchemins du monde. Mais vous n'avez pas à vous en servir. La chose viendra d'elle-même en temps et lieu. La vérité avant tout. Si vous aviez une marque remarquable depuis votre naissance, que feriez-vous »« Rien, » répondit Guite, « c'est pourtant vrai. Vous voyez bien. » Votre rôle est simple comme bonjour. Le tout est de ne pas chercher la petite bête. C'est votre mère qui fera tout. » La voiture s'arrêtait devant la porte cochère de l'hôtel. Résumé, dit rapidement Saladin. Trouvé sur la grande route à 7 ans, souvenir très vague d'une vie de saltimbanque et peut-être, dans les brouillards, l'image d'une femme penchée au-dessus de votre berceau. Élevé chez moi, dans du coton, adoré par moi et me le rendant avec usure. Éducation ébauchée, métier appris, voyage au Brésil, coup de foudre quand on est venu vous dire « vous allez voir votre mère ». Il sauta sur le trottoir et tendit la main à Guite, qui dit en descendant à son tour lestement « Après ça, au petit bonheur, on fera de son mieux pour être idolâtré par la dame, et si on ne parvient pas à lui plaire, on s'en frotte l'œil. » « Admirable !» fit Saladin, qui mit en branle la sonnette de l'hôtel. « Au diable !» reprit-il au moment où la porte roulait sur ses gonds. « Un détail, mais très important. Vous aimez les arbres, la verdure. Vous demanderez un petit réduit donnant sur les jardins. N'oubliez pas cela, c'est tout à fait indispensable. » La duchesse, qui attendait depuis le matin en proie à une impatience fiévreuse, vit enfin le ciel s'ouvrir quand sa femme de chambre, qui était prévenue, annonça, sans en avoir demandé la permission, « Monsieur le marquis de Rosenthal et mademoiselle Justine. »« Mademoiselle Justine, » répéta la duchesse, qui se leva chancelante, « il m'avait dit. » Elle fut interrompue par l'entrée de monsieur le marquis, dont la première parole répondit à sa pensée. Madame la duchesse, murmura-t-il en s'inclinant respectueusement, il n'y a ici que votre fille. Je n'abdique pas à des droits qui me sont plus chers que la vie, mais je m'efface complètement, entendez-moi bien, complètement, devant votre grande joie de mère, et je sens que je serai de trop ici aujourd'hui. Je reviendrai, madame, seulement quand vous me rappellerez. La duchesse, pendant qu'il parlait, avait traversé toute la chambre en s'appuyant au meuble. Elle était violemment émue et ressentait dans son cœur une reconnaissance immense. Ne trouvant point de parole pour répondre, elle jeta ses deux bras autour du cou de Saladin et l'attira vers elle pour déposer un baiser sur son front. Saladin balbutia, les larmes aux yeux, ou du moins en essuyant ostensiblement ses paupières. « Merci, madame, du fond du cœur, merci. » Et puis il s'effaça et, prenant Mademoiselle Guitte par la main, il la présenta à la duchesse en ajoutant « Vous ne serez jamais si heureuse que je le souhaite. » Madame de Chavès s'empara de la jeune fille et la pressa contre sa poitrine en sanglotant. Saladin avait disparu. Elles étaient seules.